Armand de l'homme d'Ars, dit le baron de Lahontan. Dialogue ou entretien entre un sauvage et le baron de Lahontan. 1703. Du mariage. Adario. Mon frère, je viens te visiter avec ma fille, qui va se marier, malgré moi, avec un jeune homme qui est aussi bon guerrier que mauvais chasseur. Elle le veut. Cela suffit pour nous, mais il n'en est pas ainsi parmi vous, car il faut que les pères et les mères consentent au mariage de leur enfant. Or, il faut que je veuille ce que ma fille veut aujourd'hui. Car si je prétendais lui donner un autre mari, elle me dirait aussitôt « Père, à quoi penses-tu? Suis-je ton esclave? Ne dois-je pas jouir de ma liberté? Dois-je me marier pour toi? Épouserai-je un homme qui me déplaît? Pour te satisfaire? Comment pourrais-je souffrir un époux qui achète mon corps à mon père? Et comment pourrais-je estimer un père qui vend sa fille à un brutal? Est-ce qu'il me sera possible d'aimer les enfants d'un homme que je n'aime pas, si je me marie avec lui pour t'obéir et que je le quitte au bout de 15 jours, suivant le privilège et la liberté naturelle de la nation? Tu diras que cela va mal, cela te déplaira, tout le monde en rira, peut-être, et peut-être je serai grosse. Voilà, mon cher frère, ce que ma fille aurait sujet de me répondre, et peut-être encore pis. Comme il arriva, il y a quelques années, à un de nos vieillards qui prétendait que sa fille se maria avec un homme qu'elle n'aimait pas. Car elle lui dit, en ma présence, 1000 choses plus dures, en lui reprochant qu'un homme d'esprit ne devait jamais s'exposer à donner des conseils aux personnes dont il en pourrait recevoir, ni exiger de ses enfants des obéissances qu'il connaît impossibles. Enfin, elle ajouta à tout cela qu'il était vrai qu'elle était sa fille, mais qu'il devait se contenter d'avoir eu le plaisir de la faire avec une femme qu'il aimait autant que cette fille haïssait le mari que son père prétendait lui donner. Il faut que tu saches que nous ne faisons jamais de mariage entre parents, quelque éloigné que puisse être le degré de parentage. Que nos femmes ne se remarient plus dès qu'elles ont atteint l'âge de 40 ans, parce que les enfants qu'elles font au-dessus de cet âge-là sont de mauvaise constitution. Cependant, ce n'est pas à dire qu'elles gardent la continence. Au contraire, elles sont beaucoup plus passionnées à cet âge qu'à 20 ans, ce qui fait qu'elles écoutent si favorablement les Français, et que même elles se donnent le soin de les rechercher. Tu sais bien que nos femmes ne sont pas aussi fécondes que les Françaises, quoiqu'elles se lassent moins qu'elles d'être embrassées. Cela me surprend, car il arrive en cela tout le contraire de ce qui devrait arriver. Lahontan. C'est par la même raison que tu viens de dire, mon pauvre Adario, qu'elles ne conçoivent pas si facilement que nos femmes. Si elles ne prenaient pas si fréquemment les plaisirs de l'amour ni avec tant d'avidité, elles donneraient le temps à la matière convenable à la production des enfants, de se rendre telle qu'il faut qu'elle soit pour engendrer. Il en est de même qu'un champ, dans lequel on sèmerait sans cesse du blé d'Inde, sans la laisser jamais en friche, car il arriverait qu'à la fin, il ne produirait plus rien, comme l'expérience te l'a sans doute fait voir. Au lieu qu'en laissant reposer ce champ, La terre reprend ses forces, l'air, le serein, les pluies et le soleil lui redonnent un nouveau suc qui fait germer le grain qu'on y sème. Or, écoute un peu, mon cher, ce que je veux te dire. Pourquoi est-ce que les femmes sauvages, étant si peu fécondes, ont si peu l'accroissement de leur nation en vue? Qu'une fille se fait avorter lorsque le père de son enfant vient à mourir ou à être tué avant que sa grossesse soit reconnue. Tu me répondras que c'est pour conserver sa réputation, parce qu'ensuite elle ne trouverait plus de mari, mais il me semble que l'intérêt de la nation, laquelle devrait se multiplier, n'est guère en recommandation dans l'esprit de vos femmes. Il n'en est pas ainsi des nôtres, car, comme tu me le disais l'autre jour, nos coureurs de bois et bien d'autres trouvent assez souvent de nouveaux enfants dans leur maison, au retour de leur voyage. Cependant, ils s'en consolent car ce sont des corps pour la nation et des âmes pour le ciel. Après cela, ces femmes sont autant déshonorées que les vôtres et quelquefois on les met en prison pour toute leur vie au lieu que les vôtres peuvent ensuite avoir tant de galants qu'elles veulent. C'est une très abominable cruauté de détruire son enfant. C'est ce que le maître de la vie ne saurait jamais leur pardonner. Ce serait un des principaux abus à réformer parmi vous. Ensuite, il faudrait retrancher la nudité, car enfin, le privilège que vos garçons ont d'aller nus cause un terrible ravage dans le cœur de vos filles, car n'étant pas de bronze, il ne se peut faire qu'à l'aspect des pièces que je n'oserais nommer, elles n'entrent en rut en certaines occasions, où ces jeunes coquins font voir que la nature n'est ni morte ni ingrate envers eux. Adario. La raison que tu me donnes de la stérilité de nos femmes est merveilleuse, car je conçois maintenant que cela se peut. Tu condamnes aussi, fort à propos, le crime de ces filles qui se font avorter avec leur breuvage. Mais ce que tu dis de la nudité ne s'accorde guère avec le bon sens. Je conviens que les peuples chez qui le tien et le mien sont introduits ont grande raison de cacher non seulement leur partie virile, mais encore tous les autres membres du corps. Car à quoi serviraient l'or et l'argent des Français s'ils ne les employaient à se parer avec de riches habits? Puisque ce n'est que par le vêtement qu'on fait état des gens. N'est-ce pas un grand avantage pour un Français de pouvoir cacher quelques défauts de nature sous de beaux habits? Crois-moi, la nudité ne doit choquer uniquement que les gens qui ont la propriété des biens. Un laid homme, parmi vous autres, un mal bâti, trouve le secret de se rendre beau et bien fait, avec une belle perruque et des habits dorés, sous lesquels on ne peut distinguer les hanches et les fesses artificielles d'avec les naturelles. Il y aurait encore un grand inconvénient si les Européens allaient nus. C'est que ceux qui seraient bien armés trouveraient tant de pratiques et d'argent à gagner qu'ils ne songeraient à se marier de leur vie, et qu'ils donneraient occasion à une infinité de femmes de violer la foi conjugale. Imagine-toi que ces raisons n'ont aucun lieu parmi nous, où il faut que tout serve sans exception, tant petit que grand. Les filles qui voient de jeunes gens nus jugent à l'œil de ce qui leur convient. La nature n'a pas mieux gardé ses proportions envers les femmes qu'envers les hommes. Ainsi, chacune peut hardiment juger qu'elle ne sera pas trompée en ce qu'elle attend d'un mari. Nos femmes sont capricieuses, comme les vôtres, ce qui fait que le plus chétif sauvage peut trouver une femme. Car, comme tout paraît à découvert, nos filles choisissent quelquefois suivant leur inclination, sans avoir égard à certaines proportions. Les unes aiment un homme bien fait, quoiqu'il ait je ne sais quoi de petit en lui. D'autres aiment un mal bâti, pourvu qu'elle y trouve je ne sais quoi de grand. Et d'autres préfèrent un homme d'esprit et vigoureux, quoiqu'il ne soit ni bien fait ni bien pourvu de ce que je n'ai pas voulu nommer. Voilà, mon frère, tout ce que je puis te répondre sur le crime de la nudité qui, comme tu sais, ne doit uniquement être imputé qu'aux garçons, puisque les gens veufs ou mariés cachent soigneusement le devant et le derrière. Au reste, nos filles sont en récompense plus modestes que les vôtres, car on ne voit en elles rien de nu que le gras de la jambe. Au lieu que les vôtres montrent le sein tellement à découvert que nos jeunes gens ont le nez collé sur le ventre, lorsqu'ils trafiquent leurs castors aux belles marchandes qui sont dans vos villes. Ne serait-ce pas là, mon frère, un abus à réformer parmi les Français? Car enfin, ne sais-je pas de bonne part qu'il n'est guère de Françaises qui puissent résister à la tentation de l'objet de qui leur sein découvert provoque l'émotion? Ce serait le moyen de préserver leur mari du mal chimérique de ces cornes que nous plantons sur leur front sans les toucher ni même les voir, ce qui se fait par un miracle que je ne saurais concevoir. Car enfin, si je plante un pommier dans un jardin, il ne croît pas sur le sommet d'un rocher. Ainsi, vos cornes invisibles ne doivent prendre racine qu'à l'endroit où leur semence est jetée. D'où il s'ensuit qu'elles devraient sortir du front de vos femmes pour représenter les outils du mari et du galant. Au reste, cette folie de cornes est épouvantable, car pourquoi chagriner un homme de cette injure à l'occasion des plaisirs de sa femme? Or, s'il faut épouser les vices d'une femme en l'épousant, le mariage des Français est un sacrement qui ne doit pas être fondé sur la droite raison, ou bien il faut de nécessité retenir son épouse sous la clé pour éviter ce déshonneur. Il faut que le nombre de ses maris soit bien grand. Je ne conçois pas qu'une femme puisse penser à la rigueur de cette chaîne éternelle sans chercher quelque espèce de soulagement à ses maux chez quelque bon ami. Je pardonnerais les Français s'ils s'en tenaient à leur mariage sous certaines conditions, c'est-à-dire pourvu qu'il en provint des enfants et que le mari et la femme eussent toujours une assez bonne santé pour s'acquitter, comme il faut, du devoir du mariage. Voilà tout le règlement qu'on pourrait faire chez des peuples qui ont le tien et le mien. Or, il s'agit encore d'une chose impertinente. C'est que parmi vous autres, chrétiens, les hommes se font gloire de débaucher les femmes. Comme s'ils ne devaient pas, selon toutes sortes de raisons, être aussi criminels aux uns qu'aux autres de succomber à la tentation de l'amour. Vos jeunes gens font tous leurs efforts pour tenter les filles et les femmes, et ils emploient toutes sortes de voies pour y réussir. Ensuite, ils le publient, ils le disent partout, chacun loue le cavalier, et méprise la dame, au lieu de pardonner la dame et de châtier le cavalier. Comment prétendez-vous que vos femmes vous soient fidèles si vous ne l'êtes pas à elles? Si les maris ont des maîtresses, pourquoi leurs épouses n'auraient-elles pas des amants? Et si ces maris préfèrent les jeux et le vin à la compagnie de leurs femmes, pourquoi ne chercheraient-elles pas de la consolation avec quelque ami? Voulez-vous que vos femmes soient sages? Soyez ce que vous appelez sauvage, c'est-à-dire soyez hurons, aimez-les comme vous-même et ne les vendez pas. Car je connais certains maris parmi vous qui consentent aussi lâchement au libertinage de leurs épouses que des mères à la prostitution de leurs filles. Ces gens-là ne le font que parce que la nécessité les y oblige. Sur ce pied-là, c'est un grand bonheur pour les hurons de n'être pas réduit à faire les bassesses que la misère inspire aux gens qui ne se sont pas accoutumés d'être misérables. Nous ne sommes jamais ni riches ni pauvres, et c'est en cela que notre bonheur est au-dessus de toutes vos richesses. Car nous ne sommes pas obligés de vendre nos femmes et nos filles pour vivre aux dépens de leurs travaux amoureux. Vous dites qu'elles sont sottes. Il est vrai, nous en convenons, car elles ne savent pas écrire des billets à leurs amis comme les vôtres, et quand cela serait, l'esprit des Hurons n'est pas assez pénétrant pour choisir à la physionomie des vieilles, assez fidèle pour porter ses lettres galantes sous un silence éternel. Ah, maudite écriture, pernicieuse invention des Européens qui tremblent à la vue des propres chimères qu'elles se représentent eux-mêmes par l'arrangement de 23 petites figures plus propres à troubler le repos des hommes qu'à l'entretenir. Les Hurons sont aussi des sots, s'il vous en faut croire, parce qu'ils n'ont point d'égard à la perte du pucelage des filles qu'ils épousent et qu'ils prennent en mariage des femmes que leurs camarades ont abandonnées. Mais mon frère, dis-moi, je te prie, les Français en sont-ils plus sages pour s'imaginer qu'une fille est pucelle parce qu'elle crie et qu'elle jure de l'être? Or, supposons qu'elle soit telle qu'il la croit, la conquête en est-elle meilleure? Non, vraiment, au contraire, le mari est obligé de lui apprendre un exercice qu'elle met ensuite en pratique avec d'autres gens, lorsqu'il n'est pas en état de le continuer journellement avec elle. Pour ce qui est des femmes que nous épousons après la séparation de leur mari, n'est-ce pas la même chose que ce que vous appelez se marier avec des veuves? Néanmoins, avec cette différence que ces femmes ont tout lieu d'être persuadées que nous les aimons, au lieu que la plupart de vos veuves ont tout sujet de croire que vous épousez moins leur corps que leur richesse. Combien de désordres n'arrive-t-il pas dans les familles par des mariages comme ceux-là? Cependant, on n'y remédie pas, parce que le mal est incurable, dès que le lien conjugal doit durer autant que la vie. Voici encore une autre peine parmi vous autres, qui me paraît tout à fait cruelle. Votre mariage est indissoluble. Cependant, une fille et un garçon qui s'aiment réciproquement ne peuvent pas se marier ensemble sans le consentement de leurs parents. Il faudra qu'ils se marient l'un et l'autre, au gré de leur père et contre leur désir, quelque répugnance qu'ils aient avec des personnes qu'ils haïssent mortellement. L'inégalité d'âge, de biens et de conditions cause tous ces désordres. Ces considérations l'emportent sur l'amour mutuel des deux parties, qui sont d'accord entre elles. Quelle cruauté et quelle tyrannie d'un père envers ses enfants! Voit-on cela parmi les Hurons? Ne sont-ils pas aussi nobles, aussi riches les uns que les autres? Les femmes n'ont-elles pas la même liberté que les hommes? Et les enfants ne jouissent-ils pas des mêmes privilèges que leur père? Un jeune Huron n'épousera-t-il pas une des esclaves de sa mère, sans qu'on soit en droit de l'en empêcher? Cette esclave n'est-elle pas faite comme une femme libre? Et dès qu'elle est belle, qu'elle plaît, ne doit-elle pas être préférable à la fille du grand chef de la nation, qui sera laide? N'est-ce pas encore une injustice pour les peuples qui détestent la communauté des biens que les nobles donnent à leur premier fils presque tous leurs biens et que les frères et les sœurs de celui-ci soient obligés de se contenter de très peu de choses, pendant que cet aîné ne sera peut-être pas légitime et que tous les autres le seront? Qu'en arrive-t-il si ce n'est qu'on jette les filles dans des couvents? Prison perpétuelle par une barbarie qui ne s'accorde guère avec cette charité chrétienne que les jésuites nous prêchent. Si ce sont des garçons, ils se trouvent réduits à se faire prêtres ou moines pour vivre du beau métier de prier Dieu malgré eux, de prêcher ce qu'ils ne font pas et de persuader aux autres ce qu'ils ne croient pas eux-mêmes. S'ils s'en trouvent qui prennent le parti de la guerre, c'est plutôt pour piller la nation que pour la défendre de ses ennemis. Les Français ne combattent point pour l'intérêt de la nation, comme nous faisons. Ce n'est que pour leur propre intérêt et dans la vue d'acquérir des emplois qu'ils combattent. L'amour de la patrie et de leurs compatriotes y ont moins de part que l'ambition, les richesses et la vanité. Enfin, mon cher frère, je conclus ce discours en t'assurant que l'amour propre des chrétiens est une folie que les Hurons condamneront sans cesse. Or, cette folie qui règne en tout parmi vous autres Français ne se remarque pas moins dans vos amours et dans vos mariages, lesquels sont aussi bizarres que les gens qui donnent si sottement dans ce panneau. Lahontan. Écoute, Adario, je me souviens de t'avoir dit qu'il ne fallait pas juger des actions des honnêtes gens par celles des coquins. J'avoue que tu as raison de blâmer certaines actions que nous blâmons aussi. Je conviens que la propriété de biens est la source d'une infinité de passions dont vous êtes exempt. Mais si tu regardes toutes choses du bon côté, et surtout nos amours et nos mariages, le bel ordre qui est établi dans nos familles et l'éducation de nos enfants, tu trouveras une conduite merveilleuse dans toutes nos constitutions. Cette liberté que les Hurons nous prêchent cause un désordre épouvantable. Les enfants sont aussi grands maîtres que leurs pères, et les femmes, qui doivent être naturellement sujettes à leur mari, ont autant de pouvoir qu'eux. Les filles se moquent de leur mère lorsqu'il s'agit de prêter l'oreille à leurs amants. En un mot, toute cette liberté se réduit à vivre dans une débauche perpétuelle et donne à la nature tout ce qu'elle demande, à l'imitation des bêtes. Les filles des Hurons font consister leur sagesse dans le secret et dans l'invention de cacher leur débauche. Courir l'allumette est ce qui s'appelle chez nous « chercher aventure ». Tous vos jeunes gens courent cette allumette tant que la nuit dure. Les portes des chambres de vos filles sont ouvertes à tout venant. Et s'il se présente un jeune homme qu'elle n'aime pas, elle se couvre la tête de sa couverture, c'est-à-dire qu'elle n'en est point tentée. S'il en vient un second, peut-être elle lui permettra de s'asseoir sur le pied de son lit pour parler avec elle sans passer outre. C'est-à-dire qu'elle veut ménager ce drôle-là pour avoir plusieurs cordes à son arc. En vient-il un troisième qu'elle veut duper, avec une plus feinte sagesse, elle lui permettra de se coucher auprès d'elle sur les couvertures du lit. Celui-ci est-il parti ? Le quatrième arrivant trouve le lit et les bras de la fille ouverts à son plaisir pour 2 ou 3 heures. Et quoiqu'elle n'emploie ce temps-là à rien moins qu'en paroles, on le croit cependant à la bonne foi. Voilà, mon cher Adario, le putanisme de tes huronnes couverts de manteaux d'honnête conversation, et d'autant plus que quelque indiscrétion que puissent avoir les amants envers leur maîtresse, ce qui n'arrive guère, bien loin de les croire, on les traite de jaloux, qui est une injure infâme parmi vous autres. Après tout ce que je viens de dire, il ne faut pas s'étonner si les Américaines ne veulent point entendre parler d'amour pendant le jour, sous prétexte que la nuit est faite pour cela. Voilà ce qu'on appelle en France « cacher adroitement son jeu ». S'il y a de la débauche parmi nos filles, au moins il y a cette différence que la règle n'est pas générale, comme parmi les vôtres, et que d'ailleurs, elles ne vont pas si brutalement au fait. L'amour des Européennes est charmant. Elles sont constantes et fidèles jusqu'à la mort. Lorsqu'elles ont la faiblesse d'accorder à leurs amants la dernière faveur, c'est plutôt en vertu de leur mérite intérieur qu'extérieur, et toujours moins par le désir de se contenter elles-mêmes que de donner des preuves sensibles d'amour à leurs amants. Ceux-ci sont galants, cherchent à plaire à leur maîtresse par des manières tout à fait jolies, comme par le respect, par les assiduités, par la complaisance. Ils sont patients, zélés et toujours prêts à sacrifier leur vie et leur bien pour elle. Ils soupirent longtemps avant que de rien entreprendre, car ils veulent mériter la dernière faveur par des longs services. On les voit à genoux, aux pieds de leur maîtresse, mendier le privilège de leur baiser la main. Et comme le chien suit son maître en veillant, lorsqu'il dort, aussi chez nous, un véritable amant ne quitte point sa maîtresse et il ne ferme les yeux que pour songer à elle, pendant le sommeil. S'il s'en trouve quelqu'un assez fougueux pour embrasser sa maîtresse brusquement à la première occasion, sans avoir égard à sa faiblesse, on l'appelle « sauvage » parmi nous, c'est-à-dire « homme sans quartier » qui commence par où les autres finissent. Adario. Oh, 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 les Français ont-ils bien l'esprit d'appeler ces gens-là « sauvages » ? Ma foi, je ne croyais pas que ce mot-là signifiât parmi vous un homme sage et conclusif. Ne doutant pas qu'un jour, vous n'appeliez « sauvage » tous les Français qui seront assez sages pour suivre exactement les véritables règles de la justice et de la raison. Je ne m'étonne plus de ce que les rusées françaises aiment tant les sauvages. Elles n'ont pas tout le tort, car à mon avis, le temps est trop cher pour le perdre. Et la jeunesse trop courte pour ne pas profiter des avantages qu'elle nous donne. Si vos filles sont constantes à changer sans cesse d'amant, cela peut avoir quelque rapport à l'humeur des nôtres. Mais lorsqu'elles se laissent fidèlement caresser par 3 ou 4 en même temps, cela est très différent du génie des Hurones. Que les amants français passent leur vie à faire des folies que tu viens de me dire, pour vaincre leur maîtresse, c'est-à-dire qu'ils emploient leur temps et leur bien à l'achat d'un petit plaisir précédé de 1000 peines et de 1000 soucis, je ne les en blâmerai pas, puisque j'ai fait la folie de me risquer sur d'impertinents vaisseaux à traverser les mers rudes qui séparent la France de ce continent pour avoir le plaisir de voir le pays des Français, ce qui m'oblige à me taire. Mais les gens raisonnables diront que ces sortes d'amants sont aussi fous que moi, avec cette différence que leur amour passe aveuglément d'une maîtresse à l'autre, les exposant à souffrir les mêmes tourments, au lieu que je ne passerai plus de ma vie de l'Amérique en France. Fin des dialogues.